Deuxième partie. Les quatre étapes de la méthode CODE. Chapitre 4. Capter. Garder ce qui résonne en soi. Tout ce qui n'a pas été sauvegardé sera perdu. Message « Quittez l'écran » de Nintendo. Ce n'est pas un hasard si l'on parle de « grain à moudre » à propos d'idées qui nous interpellent. L'information nourrit l'esprit. Il est évident que nous avons besoin de nourriture et d'eau pour vivre. Ce qui l'est moins, c'est que nous avons également besoin d'informations, notamment pour comprendre et nous adapter à notre environnement, maintenir des relations et coopérer avec autrui et prendre des décisions qui vont dans le sens de nos intérêts. L'information n'est pas un luxe. C'est la condition même de notre survie. Tout comme nous le faisons avec la nourriture que nous ingérons, il nous appartient de choisir notre régime informationnel. C'est à nous de décider quelle information nous est bénéfique, ce que nous voulons consommer en plus grande quantité ou de façon plus modérée, et pour finir, de déterminer ce que nous désirons faire de ce qui alimente notre esprit. Nous sommes ce que nous absorbons, aussi bien en termes de nourriture terrestre qu'intellectuelle. Un second cerveau nous donne le moyen de filtrer le flot d'informations et de conserver les meilleures idées rencontrées dans un lieu sûr et privé. Voyez cela comme si vous plantiez votre propre jardin de connaissances où vous serez libre de cultiver les idées que vous souhaitez et de développer votre pensée personnelle loin du bruit assourdissant produit par les innombrables opinions des autres. Comme la valeur d'un jardin dépend de ses plantations, commencez par ensemencer le vôtre avec les idées les plus intéressantes, les plus pertinentes et les plus utiles que vous trouverez. Vous consommez sans doute déjà beaucoup de contenu issu d'une multiplicité de sources, mais peut-être n'avez-vous jamais vraiment réfléchi à ce que vous pourriez en faire. Ou peut-être êtes-vous déjà un organisateur hors pair, mais vous ne savez pas comment utiliser vos réserves de contenu numérique pour enrichir votre vie. Ou bien encore, tout cela est complètement nouveau pour vous, et vous partez de zéro. Peu importe votre situation, commençons par le commencement. Comment utiliser la première étape de la méthode CODE pour amorcer la constitution de votre recueil de connaissances personnelles ? Se construire un recueil de connaissances personnelles. Taylor Swift est une icône de la musique pop et country moderne et l'une des artistes qui a le plus vendu de disques de tous les temps. Ses 9 albums à succès se sont écoulés à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde et lui ont valu une longue liste de récompenses, dont 11 Grammy Awards, ainsi que l'honneur de figurer sur les listes des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes de tous les temps. Transcendant le monde de la musique, son influence lui a aussi valu de se retrouver sur les listes Time 100 et Forbes Celebrity 100. Au cours de sa carrière, Swift a produit 5 documentaires sur son processus créatif d'écriture de chansons. Dans tous, on la voit la tête plongée dans son téléphone. Comme elle le dit, je disparais dans mon téléphone parce que c'est là où je stocke mes notes et où je monte mes morceaux. Elle y consigne n'importe quelle bribe de texte ou d'accroche mélodique qui lui passe par la tête. Ses notes la suivent partout. Elle peut y accéder de n'importe où et les relire, les modifier, rebondir dessus ou les envoyer en quelques secondes à un vaste réseau de producteurs et de collaborateurs utilisant le même type d'appareil. Enfin, tous les commentaires qu'il lui renvoie peuvent également y être intégrés. Dans un entretien sur la manière dont elle a écrit la chanson à succès « Blank Space », elle raconte « Je vaque à mes occupations quotidiennes et je me dis « Waouh ! En fait, on n'a vraiment que 2 options dans les relations amoureuses. Soit ça dure éternellement, soit ça vole en éclats. Je vais alors noter ça. Et puis, je vais penser à une ligne de texte qui me paraît bien comme « Chérie, je suis un cauchemar déguisé en rêvasserie. » Je note tout ça, je les insère là où il faut et j'établis un pont avec d'autres lignes de texte que j'ai notées au cours des 2 dernières années. Blank Space a été le point culminant de ces meilleures lignes. Pour Taylor Swift, écrire des chansons n'est pas une activité qui se limite à un lieu et à un moment précis. C'est un effet secondaire de la manière dont son cerveau fonctionne, étant donné qu'il peut lui envoyer des métaphores et des tournures de phrases à tout moment. Je peux être inspiré pour écrire une chanson à n'importe quel moment de la journée, lorsque je vis une histoire ou après que la poussière est retombée et que je suis passé à autre chose. Je peux être en train de faire la vaisselle ou un truc dans le genre, ou en plein milieu d'une interview, et tout à coup, avoir une idée qui me fait me dire « ça pourrait être une accroche, ça pourrait venir juste avant le refrain ou être une ligne d'ouverture ». Ensuite, elle explique pourquoi c'est important pour elle de capter ces pensées fugaces dès leur apparition. Je dois capitaliser sur l'excitation que me procure cette idée et voir où elle me mène. Sinon, je la délaisse en me disant qu'elle ne devait pas être si bonne que ça. En intégrant sa prise de notes à sa vie quotidienne, elle arrive à utiliser un langage et des analogies enracinées dans des sentiments et des expériences de tous les jours, ce qui crée un lien puissant avec ses fans qui se surnomment eux-mêmes les Swifties. Écouter ses albums permet de la suivre dans sa découverte d'elle-même, chacun faisant la chronique de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle est devenue aux différentes étapes de sa vie. Cette histoire montre que même les créateurs les plus prolifiques et qui ont le mieux réussi ont besoin d'un système qui les aide à porter leurs idées de leur conception à leur réalisation. Il ne s'agit pas juste d'avoir du talent brut. Celui-ci doit être canalisé et développé afin de devenir quelque chose de plus qu'une étincelle fugace. L'acteur Jerry Seinfeld, sans doute le comédien le plus influent de sa génération, a écrit dans son livre « Et c'est tout ». Chaque fois que j'avais une idée amusante, que ce soit sur scène, au cours d'une conversation ou lorsque je travaillais sur mon support préféré, un grand bloc-notes jaune, je l'arrangeais dans l'un de ces dossiers en accordéon à l'ancienne. Beaucoup de gens avec qui j'ai discuté ont semblé surpris que je fasse ça, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi j'ai gardé d'autres choses. Qu'est-ce qui pourrait bien avoir plus de valeur que ces idées ? Pensez à votre athlète, votre musicien ou votre acteur préféré. Derrière l'écran de leur personnalité publique se cache un processus qu'ils suivent pour arriver à transformer des idées nouvelles en créations. Il en va de même pour les inventeurs, les ingénieurs et les dirigeants efficaces. L'innovation et l'impact ne sont pas le fruit du hasard ou de la chance. La créativité repose sur un processus créatif. Derrière chaque personne prolifique, vous trouverez un processus qui peut se répéter, qui est fiable et efficace, amendable au cours du temps. Ce processus créatif reste souvent caché, mais si vous regardez bien, il est au cœur du succès de tout maître à penser, de tout individu apte à résoudre des problèmes et de tout être créatif. Se créer une banque de savoir. Comment générer des intérêts composés à partir de vos idées ? Au chapitre 2, nous avons considéré l'histoire des mementos que tenaient auteurs et intellectuels au siècle dernier. Pour eux, le rôle de l'information était clair. Elle devait nourrir leurs écrits, leurs prises de parole publiques et leurs conversations. Savoir comment ils allaient se servir de ces idées leur permettait de déterminer avec certitude lesquelles valaient la peine d'être notées. Cette pratique perdure chez les créatifs d'aujourd'hui. Les auteurs-compositeurs-interprètes sont ainsi connus pour compiler des carnets d'accroches, hookbooks, où ils consignent des paroles et des refrains qu'ils intégreront peut-être à de futurs morceaux. Les ingénieurs en informatique se constituent des bibliothèques de code pour retrouver aisément des séquences de code réutilisables. Les avocats se créent des dossiers reprenant les détails d'affaires passées auxquels ils se référeront peut-être à l'avenir. Et les marketeurs et les publicitaires gardent à jour ce que les anglo-saxons appellent des « swap files », soit des dossiers où ils sauvegardent pour s'en inspirer des exemples de slogans ou de campagnes réussies. Le défi pour nous autres est d'arriver à dupliquer cette méthode pour l'appliquer au travail quotidien. Comment savoir quelle information sauvegarder quand on ignore encore ce que l'on en fera et ce que l'avenir nous réserve? Notre monde change beaucoup plus rapidement qu'avant, et la plupart d'entre nous n'utilisent pas qu'un seul médium créatif. Pour répondre à cette question, nous devons radicalement élargir notre définition de ce qu'est le savoir. Le savoir ne se résume pas plus à de sagaces citations de philosophes grecs en toge blanche morts depuis longtemps qu'aux enseignements trouvés dans d'épais manuels rédigés par des universitaires. Dans le monde numérique dans lequel nous vivons, le savoir se présente le plus souvent sous la forme de contenu. Des bribes de texte, des captures d'écran, des articles sauvegardés dans nos favoris, des podcasts ou d'autres types de médias. Cela inclut aussi bien du contenu recueilli auprès de sources extérieures que du contenu créé en rédigeant des emails, en élaborant des plans pour des projets, en réfléchissant à des idées ou en consignant ses propres pensées dans un journal. Tous ces éléments ne sont pas des artefacts sans valeur, mais des actifs informationnels qui cristallisent nos connaissances en leur donnant une forme concrète. Le savoir n'est pas toujours quelque chose qui se trouve ailleurs et qu'il faut aller chercher. Il est partout, tout autour de vous, enfoui dans vos emails, caché dans des fichiers, dans vos dossiers, suspendu quelque part dans votre cloud. Le capter consiste à extraire les richesses contenues dans ce que vous êtes déjà en train de lire et dans votre vie. Parfois, ces actifs sont tout ce qu'il y a de plus banal, comme l'ordre du jour de la réunion de planification financière de l'année dernière, actualisé pour la réunion de l'année suivante. D'autres fois, ils sont remarquables et ambitieux, comme les notes détaillées issues de votre lecture d'un livre d'histoire qui pourrait changer votre façon de voir le monde. Sans oublier tout ce qui se situe entre ces deux extrêmes. Un actif informationnel est tout ce qui peut être utilisé pour résoudre un problème, gagner du temps, éclairer un concept ou apprendre d'une expérience passée. Les actifs informationnels proviennent soit du monde externe, soit de vos pensées intimes. Les sources externes peuvent inclure des morceaux choisis, des passages éclairants extraits de livres ou d'articles lus, des citations, des passages mémorables tirés de podcasts ou de livres audio écoutés, des signets et des favoris, des liens pointant vers du contenu intéressant trouvé sur le web ou dans un post d'un média social, des mémos vocaux, des notes enregistrées sur votre téléphone mobile, des notes prises en réunion ou lors d'une discussion téléphonique, des images, des photos ou d'autres illustrations que vous jugez inspirantes ou intéressantes, des enseignements, des leçons tirées de cours, de conférences ou de présentations auxquelles vous avez assisté. Regardez autour de vous et vous constaterez que vous avez déjà accumulé nombre de ces actifs. Ils sont peut-être désorganisés, éparpillés dans différents endroits et sauvegardés sous différents formats, mais ils existent bel et bien. Remarquez que vous avez déjà fait l'effort de les créer ou de les acquérir. Il ne vous reste plus qu'à les rassembler et à les planter dans votre jardin de connaissances. Sous peu, je vous montrerai comment faire. À mesure que vous commencerez à compiler ce matériau extérieur, vous constaterez qu'il génère souvent de nouvelles idées et prises de conscience en votre fort intérieur, ce que vous pouvez aussi capter. Ces contenus peuvent prendre les formes suivantes. Des histoires, vos anecdotes préférées, que vous en soyez le protagoniste ou non. De nouvelles perspectives, vos petites et grandes découvertes. Des souvenirs, des expériences vécues que vous ne voulez pas oublier. Des réflexions, des pensées personnelles et des leçons couchées par écrit dans un journal. Des rêvasseries, des idées qui vous traversent l'esprit de façon aléatoire. La signification d'une pensée, d'une perspective inédite ou d'un souvenir n'est pas toujours immédiatement claire. Nous avons besoin de les noter, de revenir dessus et les considérer sous un autre angle pour pouvoir digérer ce que ces informations veulent dire pour nous. Comme il est extrêmement difficile de faire cela dans notre tête, Il nous faut un médium externe qui nous permette de voir nos idées sous une autre perspective. Pour ce faire, noter les choses est le moyen le plus efficace et pratique jamais conçu. Peut-être hésitez-vous à confier vos pensées personnelles à un logiciel plutôt qu'à un journal intime. Bien évidemment, libre à vous de choisir ce que vous voulez noter, mais dites-vous tout de même que votre second cerveau est lui aussi strictement à usage personnel. Vous pouvez partager certaines de vos notes si vous le désirez, mais par défaut, leur contenu n'est destiné qu'à vous. Pour l'instant, sélectionnez deux ou trois types de contenus énumérés dans les deux listes précédentes en fonction des actifs informationnels que vous avez déjà et qui vous semblent importants. Certaines personnes préfèrent les sources intérieures de savoir, d'autres sont davantage tournées vers le monde extérieur, tandis que la majorité se situe entre ces deux extrêmes. Vous finirez certainement par être capable de capter de l'information en provenance d'une multitude de sources, mais il est important de commencer petit et d'apprendre à nager avant de plonger dans le grand bain. Ce qu'il ne faut pas garder. Les exemples que j'ai partagés avec vous peuvent vous sembler si variés que vous vous demandez, sans doute, s'il y a quoi que ce soit que vous ne devriez pas conserver dans votre second cerveau. D'après moi, il y a tout de même quatre types de contenus qui ne se prêtent pas bien à une saisie sous forme de notes. Les informations sensibles qui devraient être sécurisées. Le contenu que vous sauvegardez dans vos notes peut facilement être consultable depuis n'importe quel appareil, ce qui est parfait pour l'accessibilité, mais pas pour la sécurité. Des informations telles que des déclarations de revenus, des documents officiels, des mots de passe et des historiques médicaux ne devraient pas être sauvegardés sous forme de notes. Les documents de format ou de type particulier qui demandent une application dédiée pour être exploitables. Même si vous pouviez sauvegarder des fichiers Photoshop ou des vidéos dans vos notes, vous auriez besoin d'une application spéciale pour les ouvrir. Donc, rien ne sert de les conserver dans votre application de prise de notes. Les fichiers très volumineux. Les applications de notes sont conçues pour des textes courts et des images de taille réduite. Si vous y stockez de gros fichiers, vous compromettrez gravement leur performance. Les contenus collaboratifs. Comme les applications de prise de notes sont conçues pour des usages privés et individuels, elles ne sont pas idéales pour collaborer. Vous pouvez partager des notes individuelles ou même de groupe, mais s'il faut que plusieurs personnes collaborent en temps réel sur le document, tournez-vous vers une autre plateforme.